Nous avons entendu sûrement pour la énième fois ce texte, la parabole du fils prodigue. Mais l'avons-nous bien écouté? Il n'est jamais trop tard pour entrer dans la compréhension d'un texte, pour se laisser transformer par le sens de ce texte qui est pour nous parole du Seigneur, parole proclamée en Église, le jour du Seigneur, parole qui annonce la vie nouvelle. Ce que nous pouvons nous demander peut-être en écoutant ce texte, tout d'abord, c'est qu'est-ce qui anime profondément les différents personnages? Qu'est-ce qui les meut? Qu'est-ce qui bouge leur cœur? Il me semble que pour ce qui est du fils cadet, on peut dire que c'est l'intérêt. L'intérêt qui le pousse à demander à son père, avant l'heure sans doute, sa part d'héritage. L'intérêt qui le pousse à user de sa liberté pour aller dans un pays lointain, tout dépenser, sans égard pour l'effort, le travail que cela représente. L'intérêt qui le pousse encore au moment où il prend conscience de sa misère, parce qu'il a tout dépensé et qu'il a faim, et où il se dit qu'il ferait mieux de rentrer à la maison, parce qu'au moins là-bas, il y a du pain en abondance. Ce n'est pas l'affection, ce n'est pas la nostalgie, ce n'est pas même sans doute le regret, c'est simplement, je crois pouvoir le dire, encore l'intérêt. Et dans la suite, eh bien, nous le voyons accueilli par le Père, dans cet admirable élan de générosité, de pardon. Mais le fils prodigue apparaît un peu comme un personnage passif. Il est l'objet de la fête, mais il semble disparaître du récit. Simplement bénéficiaire de la miséricorde du Père. Qu'est-ce qui anime profondément le fils aîné? Il me semble que ce qui anime le fils aîné, c'est le ressentiment. On pourrait se dire, c'est un fils vertueux, c'est un fils admirable, c'est un fils obéissant, il travaille pendant que l'autre fait la fête, tout ça peut-être. Mais si on veut bien sonder son cœur, ce qu'on peut en savoir à partir du récit, eh bien quand même, c'est le ressentiment contre son frère et le ressentiment contre son père. Ressentiment contre son frère parce qu'il trouve profondément injuste que lui travaille pendant que l'autre ait passé du bon temps. Ressentiment contre son père parce que il le rend en quelque sorte complice de cette différence. Et il lui reproche, avec une certaine insolence, « Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis, alors que quand mon frère arrive, tu fais la fête pour lui. » A-t-il seulement pris conscience, fils aîné, qu'il a lui aussi tout reçu du père? Car lorsque le père donne sa part d'héritage au fils cadet, le texte nous dit « il leur partagea ses biens ». Mais le fils aîné est sans doute tellement aveuglé par son ressentiment qu'il n'est même pas capable de reconnaître l'immensité du don qu'il a reçu du Père. Qu'est-ce qui anime le Père quant à lui? Eh bien, c'est tout autre chose. Il me semble qu'on peut tout simplement dire que ce qui anime le Père, c'est l'amour de ses enfants. Et nous pouvons admirer au fil du texte, je ne reprendrai pas tous les versets, évidemment, c'est un texte qu'on pourrait commenter pendant des heures, mais tout d'abord, il accède à la demande du cadet. même si cette demande est apparemment déraisonnable. C'est un père qui va attendre le retour du fils prodigue. C'est un père qui va tout pardonner sans même que le fils prodigue ait pu finir sa phrase. C'est un père qui va faire la fête pour célébrer le retour de celui que l'on croyait mort. C'est un père encore qui va sortir et supplier le fils aîné qui refuse de participer à la fête pour lui demander de venir lui aussi prendre part au festin. C'est un père qui ne va pas répondre à l'insolence du fils aîné. C'est un père qui endure tout de la part de ses enfants avec l'espérance que cette générosité, cette patience, cette bienveillance, cette magnanimité feront un jour bouger les cœurs. Oui, c'est l'amour qui meut le Père, l'amour qui vient à bout de l'intérêt et du ressentiment. Alors nous pouvons peut-être nous demander, nous aujourd'hui, qui sommes rassemblés pour des assises d'un mouvement ou d'une fédération à but éducatif, fédération sportive et culturelle, pouvons-nous demander qu'est-ce qui nous meut, qu'est-ce que nous avons au fond du cœur? J'ose espérer que ce n'est pas le ressentiment, du moins je n'en vois pas la cause, mais l'intérêt. À travers tout ce qu'on fait, on peut toujours être tenté de se rechercher soi-même. On peut toujours être tenté de soigner son image, de cultiver sa réputation, d'y trouver des avantages en termes de considération, d'image de soi, de rôle social, que sais-je. Une part d'ambiguïté peut s'immiscer dans les meilleurs projets. Nous devons être vigilants à cela. Et il me semble toujours vérifier la qualité de nos engagements, l'authenticité des valeurs qui nous meuvent. Dans un mouvement, dans une association, dans un projet éducatif, nous ne pouvons pas avoir d'autre posture que celle du service. Nous ne pouvons pas faire d'autre choix que de consacrer le meilleur de nous-mêmes pour faire grandir ceux qui nous font confiance. Le sport, la culture, ce sont des activités qui font grandir l'être humain, qui lui permettent de se développer, de s'épanouir, de chercher du sens et peut-être même de le trouver. Et comme éducateur, comme responsable, comme animateur, comme entraîneur, comme membre de cette fédération, quelles que soient nos responsabilités, eh bien nous avons cette charge. Et cette charge est très précieuse et très lourde à la fois. Cette charge de faire avancer sur des chemins de vie, sur des chemins de sens, des plus jeunes, dans un monde où rien n'est facile, dans un monde où rien n'est évident. Hier, peut-être, il était possible d'envisager l'avenir un peu à la manière du présent et de reconduire des certitudes, des pratiques. Aujourd'hui, il me semble que ce n'est plus possible. Nous devons non seulement inventer sans cesse, nous adapter sans cesse, mais accepter de ne pas maîtriser demain, de ne pas savoir ce que demain sera. Et cela rend notre mission d'autant plus difficile. Nous avons parlé ce matin, me semble-t-il, de doute. Le doute fait partie de l'histoire humaine, il n'y a pas à s'en effrayer. Mais il y a plutôt à se demander comment est-ce que nous assumons cette histoire qui continue? Comment est-ce que nous relevons les défis d'aujourd'hui et de demain? Nous ne pourrons le faire, me semble-t-il, sans nous arrimer encore plus solidement aux valeurs qui sont les nôtres. Des valeurs, il y en a de toutes sortes, et je pense que dans une vaste fédération comme la FSCF, eh bien, on peut puiser à des sources différentes. Cela est tout à fait compréhensible. Mais pour ceux qui partagent la foi, et je pense que vous en êtes puisque vous êtes là, on ne peut pas ne pas se demander comment est-ce que notre mission se ressource à la foi elle-même. Comment est-ce que pour nous, à la fois éducateurs et chrétiens, l'Évangile fait sens? L'Évangile est source d'inspiration. L'Évangile est ce qui anime vraiment notre cœur et ce qui nous permet d'être en vérité, de manière désintéressée, au service de ceux que nous accompagnons. La suite, frères et sœurs, nous appartient. Je ne répondrai pas à votre place. Mais je pense que ce temps des assises, peut-être pour chacun, chacune d'entre nous, ce temps de retour à l'essentiel, ce temps des questions vitales, ce temps où, en retrouvant les sources de la foi, nous pouvons non pas effacer nos doutes, mais nous donner les moyens de relever les défis que nous devons nécessairement affronter. Que ces assises soient pour tous les participants, ceux qui sont ici, ceux qui sont à côté, ceux qui ne sont pas venus, ceux qui s'apprêtent à nous rejoindre, quel qu'il soit, l'occasion de revenir à l'essentiel et de mettre en œuvre le sens auquel nous adhérons et qui nous permettra de réaliser les actions que nous avons librement choisies pour le service, pour le bien de tous les jeunes qui nous font confiance. Thank you.